Nous sommes très avancés dans les mines où, au Cameroun, nous avons 14 permis de recherche minière de 1000 km² chacun. Donc, on a déjà fait beaucoup de travaux, c'est-à-dire la géophysique aérienne, on l'a fait, on a fait des analyses, on a fait les interprétations. Aujourd'hui, on est en train de faire le forage pour vraiment quantifier les gisements. Donc aujourd'hui, on cherche les investisseurs qui sont intéressés dans les mines à venir nous accompagner dans ce grand projet.
Est-ce que vous recherchez des fonds auprès d'investisseurs africains installés aux États-Unis ou purement américains?
Le fonds d'investissement, c'est le fonds. On ne veut pas que ce soit un fonds africain ou américain. Tout ça, c'est le fonds. Nous voulons un fonds pour investir. Et en ce qui concerne le fonds, on est en train de... Dans tout ce temps, on a mis en évidence un gisement de fer non loin du port en eau profonde de Kribi, où nous sommes en train de vouloir transformer une partie sur place, de mettre une fonderie sur place pour transformer une partie pour la consommation locale qui s'élève à plus de 250 millions de tonnes par an.
Nombre d'investisseurs américains, en fait, évitent le continent africain. Quel est votre message à ces investisseurs? N'y a-t-il pas de belles opportunités à travers tout le continent?
Les gens passent tout le temps, quand il y a moins de problèmes, on passe tout le temps à amplifier pour déstabiliser l'Afrique. Et les problèmes, il y en a dans tous les pays. Les problèmes que nous avons en Afrique, ça se passe dans tous les pays. Et je ne vois pas pourquoi les investisseurs doivent avoir peur. Je vous prends un exemple. Quand il y a, par exemple, quelqu'un qui meurt dans mon pays, au Cameroun, quand nous suivons les radios internationales, on ne comprend pas. On se demande si c'est dans le même pays, le Cameroun, là, que cette histoire s'est passée. Donc les gens amplifient. Nous, on ne comprend rien. C'est pour empêcher les investisseurs de venir chez nous. Or, moi, je profite de l'occasion pour dire que le Cameroun, je parle de mon pays puisque je le connais très bien. Dans mon pays, il y a la paix depuis des années et des années. L'histoire qu'on parle aujourd'hui de Boko Haram, c'est à l'extrême nord, une petite partie du pays. On ne peut même pas appeler ça la rébellion. C'est des bandits qui viennent parce que la frontière à ces endroits entre le Nigeria et le Cameroun se moins de 200 km. Ils viennent dès qu'ils attaquent au Cameroun, ils fuient entre au Nigeria. On appelle ça la rébellion. Ça, c'est des bandits, des coupeurs de route qui viennent semer le désordre là-bas. Mais les gens amplifient comme s'il y avait la guerre au Cameroun pour empêcher les investisseurs de venir. Moi, je suis au Cameroun, j'ai mes stations service dans toutes les régions, les 10 régions du pays. Moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai enregistré aucun problème dans toutes ces stations. Actuellement, que je suis aux États-Unis. S'il y a un problème au Nord-Ouest, ça veut dire que mes gérants des stations du Nord-Ouest vont m'appeler 5 minutes après pour me dire la gravité du problème. Donc, je suis vraiment écœuré quand on veut tout noircir l'image des Africains. Je ne suis pas d'accord. L'Afrique est vraiment debout. Ça, je vous le rassure en tant qu'un homme d'affaires.
Alors, vous évoquiez il y a un moment le fait de transformer une partie du minerai sur place, que ce soit les institutions de Bretton Woods ou d'autres institutions internationales. Tout le monde préconise à l'Afrique de transformer davantage sur place ces produits plutôt que de les exporter purement. Est-ce que c'est faisable et dans quelles conditions?
Oui, c'est bien faisable parce qu'actuellement, le gouvernement m'encourage dans le sud. C'est pour ça que le ministre de l'Industrie vient de créer une commission interministérielle pour suivre ce projet. Parce que le chef d'État lui-même a instruit au ministre de l'Industrie de suivre mon projet et de m'encadrer. Le ministre a créé une commission interministérielle pour suivre ce projet. Donc, c'est faisable. Même si les gens ne croyaient pas à ça, je suis en train de les encourager à croire à ça quand ils vont voir que mon projet est réalisé.
L'un des gros problèmes auxquels sont confrontées les économies africaines est celui du chômage des jeunes. Qu'avez-vous à dire sur ce sujet?
Effectivement, le chômage des jeunes, c'est pour ça qu'on veut éradiquer ça complètement en créant des emplois. Aujourd'hui, avec tout ce que je fais, j'emploie plus de 3500 jeunes. Si on pouvait encourager les Africains de créer des sociétés industrielles, de faire des transformations sur place, ça pourrait diminuer largement le chômage. Mais c'est le contraire. Les multinationales viennent encore éteindre la société nationale. Quand un national veut faire quelque chose, l'amitié nationale vient plutôt l'éteindre. Comment on va évoluer? Et quand l'amitié nationale s'installe, c'est pour chercher ses frères expatriés pour venir prendre la part de Lyon avec le salaire de plus de 30 000 dollars le mois. Pendant ce temps, l'Africain ne veut qu'au moins de quoi survivre, c'est-à-dire moins de 200 dollars. On ne lui donne pas ça, on ne veut pas chercher les gens ailleurs. Les petits travaux comme le transport dans mon pays, vous allez aller dans le transport, vous allez voir que c'est les expatriés. Oh, les banques locales ont déjà favorisé ce qu'on appelle le crédit bail pour donner aux nationaux de prendre les camions et de transporter les marchandises. Donc vous allez voir dans ce transport les expatriés qui viennent faire le transport, le travail que les Africains pouvaient le faire. Ça, je trouve ça normal.
Quelles sont les suggestions que vous pouvez offrir aux jeunes d'aujourd'hui qui voudraient se lancer dans les affaires? Vous avez réussi vous-même à force de travail, à force d'ingéniosité. Quels seraient les conseils que vous donneriez à un jeune homme ou à une jeune femme qui veut se lancer dans les affaires?
Déjà, le premier conseil, je peux lui dire de croire en ce qu'ils font. Il faut déjà croire en ce qu'on fait. Et de prendre l'exemple sur M. Boone, parce que je suis parti de rien et me voici industriel aujourd'hui. Je croyais en mes capacités, je crois en ce que je faisais. Et c'est même le slogan de Bocom aujourd'hui. Donc, quand vous commencez une affaire, ne dites pas que vous n'avez pas assez d'argent. J'ai commencé à ramasser les bouteilles. J'ai commencé à vendre de l'huile de palme. Après, j'ai commencé à être manœuvre. Okay. Mais j'avais un seul objectif, réunir mon argent pour ouvrir un atelier de couture industrielle. Ce que j'ai finalement fait, et à partir de la couture industrielle, j'ai développé d'autres industries, ainsi de suite. Et me voici aujourd'hui. Donc, je demande à tous mes jeunes soeurs de suivre mon exemple et de croire en ce qu'ils font et ils vont réussir.
Et à votre avis, que pourrait faire le gouvernement camerounais ou n'importe quel gouvernement africain pour justement aider ces jeunes à se débrouiller, à se lancer dans les affaires?
Mais que les gouvernements africains apprennent à faire confiance à leurs compatriotes qui veulent se lancer dans les affaires et qu'on les encourage. Vous allez voir dans d'autres pays, quand un jeune a envie de faire des affaires, dès qu'il a commencé, on le tue avec les impôts. C'est-à-dire qu'il ne peut pas évoluer. Le fisc qui vient devant ce monsieur ne sait pas qu'il est naïf et on va chercher à lui faire des taxations qu'il sera incapable de payer et il va fermer les portes. Donc si tous les gouvernements africains pouvaient encourager les jeunes à faire les affaires, et aller donner les exonérations des impôts, par exemple, pour quelques années, le temps qu'ils se mettent debout, avant de commencer à faire des taxations. Je crois que c'est très salutaire. Et il faut que les radios, les télévisions africaines passent le temps aussi à faire des reportages sur des gens qui ont réussi dans d'autres pays et que leurs compatriotes essaient de voir et toucher le modèle. Voilà tout ce que je peux apporter comme contribution.
Est-ce que la réglementation pourrait être davantage simplifiée aussi?
Oui, bien sûr, ça dépend de tout gouvernement. Moi, par exemple, au Cameroun, je réveille mon gouvernement tous les jours. Quand ça ne va pas, je suis au milieu du bas peuple. Dès que ça ne va pas, j'écris à la présidence. J'écris au SGP, la présidence, j'insiste. Et il me reçoit, je l'explique que le bien fondé de ce que les gens revendiquent. Et quelques jours après, le problème est décelé. Donc, je crois que n'importe qui pourrait faire la même chose. Si j'écris, on me reçoit, ça veut dire que chacun peut aussi offrir à son gouvernement, on le reçoit. Et il pose son problème clairement. Le gouvernement n'est pas le bon Dieu. Le gouvernement a besoin des informations pour agir, les informations fiables surtout pour agir.